Bienvenue à tous et à toutes. Donc, on est bien sur la radio du Diwa 107.5 FM, www.rdwa.fr. Donc, je suis avec vous pour vous conter une histoire qui se nomme La Grande Tambouille des Fées. Alors, c'est un conte pour enfants qui a été écrit par René Haussmann et Michel Rodrigue. Donc, on le trouve en médiathèque ou alors à 13 euros dans le commerce. C'est parti. La Grande Tambouille des Fées. C'était une grande maison à la fois étrange et belle. Étrange, car elle semblait avoir été dessinée par un architecte un peu fou, qui aurait eu des talents de sorcier. Belle, car dès que l'on franchissait la lourde porte de bois, on était séduit par un charme envoûtant qui donnait envie de vivre là jusqu'à la fin de ses jours. C'est ce qu'avait déclaré le papa de Valentin le jour de leur emménagement. Mais c'était un artiste, et avec lui, tout prenait des allures de belles illustrations. Cela faisait maintenant 8 jours que toute la famille était arrivée. Jujube le chat avait exploré tous les coins et recoins du parc, ravi d'être le maître d'un si vaste royaume. La maman de Valentin avait commencé par faire le tri de tous ses meubles et objets hétéroclites qui faisaient de chaque pièce les coulisses d'un nouveau théâtre. Valentin s'inventait 1000 aventures dans cet immense capharnaüm. Entre les bibliothèques ployant sous les grands livres anciens, les armures oubliées, les chapeaux et les costumes d'un autre temps, toutes sortes de cannes, les parapluies de berger, les épées ou autres hallebardes, son imagination allait à bon train. La nuit, Valentin était à l'écoute des bruits de la maison. Au fur et à mesure, son oreille s'habituait et distinguait chacun d'entre eux. Les vieux meubles qui craquaient, le grand escalier qui gémissait, le grenier où l'on trottinait, la grande pendule qui berçait toute la maison. Étrange d'ailleurs cette pendule, elle s'était remise à fonctionner toute seule, sans que personne ne l'eût touchée. Son lourd balancier de cuivre était décoré de jolies petites grenouilles musiciennes, les unes jouaient de la flûte, d'autres de la bombarde ou du biniou, d'autres encore de la vielle ou du luth. Toutes étaient assises en cercle sur des nénuphars. Des écrevisses et des poissons les écoutaient. Valentin passait des heures à regarder ce concert silencieux. Plus curieux encore, la nuit suivante, la pendule s'arrêta, puis redémarra presque aussitôt. Elle a le hoquet, pensa Valentin, aux aguets sous sa couette. À cet instant, les trottinements du grenier s'intensifièrent. Jusqu'à présent, c'était des petits pas légers et discrets, dus à des musaraignes ou des loirs. Mais cette nuit-là, des cavalcades et des bonds ébranlaient le plancher. Valentin, fixant le plafond d'où venait tout ce bruit, se demandait qui pouvait mener une pareille sarabande. Il n'était pas très rassuré. Dans la chambre voisine, ses parents dormaient profondément. Le bruit ne semblait pas les troubler. Soudain, il y eut un grand choc suivi d'un long miaulement. Puis, après une dernière galopade, un grand silence se fit. Dans l'entrebâillement de la porte, Valentin distingua le chat Jujube, suivi de 2 petits personnages. À cause de l'obscurité, il n'en vit pas davantage, et s'endormit en se disant que ses rêves étaient drôles. Le lendemain, une surprise attendait Valentin. Descendu prendre son petit déjeuner, il trouva ses parents affairés autour de l'évier de la cuisine. Ils essayaient vainement de nettoyer Jujube. « Que s'est-il passé ?» demanda Valentin. « Pourquoi le chat est-il devenu tout bleu ?» Son papa se retourna, de la mousse de savon jusqu'au coude. « Il se passe, dit-il, que Monsieur Jujube se promène nuitamment dans les combles, et il a dû renverser un vieux pot de peinture, et voilà le résultat. » L'animal, profitant d'un moment d'inattention, bondit par la fenêtre et courut se réfugier dans les branches d'un seul pleureur. Excédée, la maman de Valentin posa son éponge. « Eh bien, s'il en a marre, moi aussi !» lança-t-elle. « Cette couleur finira bien par s'en aller toute seule. Et puis son pelage va se renouveler. » Valentin pensa qu'il faudrait un long moment avant que Jujube ne retrouve son poil d'origine. De plus, il se disait que pour de la vieille peinture, celle-ci était bien fraîche. Mais ce genre de détail ne semblait pas troubler ses parents. Il se mit à table et mangea ses tartines avec un bel appétit, tout en repensant à ses rêves curieux. Son déjeuner avalé, Valentin rejoignit son père dans le parc. Les feuilles s'envolaient des arbres pour recouvrir les pelouses et les allées. Ce dernier avait entrepris de ramasser toutes ses dépouilles mordorées. Muni d'un large râteau japonais, le petit garçon s'amusa à faire le plus gros tas de feuilles de tout le parc. Félicitations, Valentin, lui dit son papa. Nous composterons tout ça demain. Valentin aimait ces tas de feuilles qui faisaient des matelas moelleux. Il aimait aussi cette odeur trouble de noix et de champignons qui s'en échappaient. Valentin s'apprêtait à ranger les outils quand il entendit éternuer derrière lui. Il se retourna. Personne. Tout d'un coup, le gros tas de feuilles bougea. Valentin recula prudemment. Il y eut un autre éternuement, puis plus rien. « Ce doit être un gros lézard, pensa-t-il. » Le petit garçon s'aperçut soudain que son tas de feuilles était tout près du kiosque des Naïdes. C'était une sorte de petite maison aux tuiles vernissées, dont la porte était fermée. Le papa de Valentin n'avait jamais encore pris le temps d'en chercher la clé. Ce pavillon intriguait beaucoup Valentin. Il venait parfois là, la journée, regarder à travers les carreaux sales. Il y voyait des choses surprenantes. Au plafond, des poissons nageaient tranquillement entre les algues. Au-dessus, des libellules virevoltaient autour de grandes fleurs de verre. Décidément, cette propriété était bien étrange. Valentin contempla une nouvelle fois le gros tas de feuilles, s'attendant à ce qu'il bouge. Mais rien. Pas un éternuement, pas un hoquet. Le garçon en fut vaguement déçu, mais aussi rassuré. À force d'amasser les feuilles, le tas, à la fin de l'après-midi, avait atteint une taille considérable. Plus haut que Valentin. Quelle menace il avait été vivant. L'appel de sa maman tira le petit garçon de ses rêveries. Les jours se font plus courts en automne, et il devait déjà rentrer. Plus tard dans la soirée, Valentin s'allongea sur le grand tapis du salon. Il contemplait la danse du feu dans la cheminée, lorsque sa maman lui proposa de grignoter les biscuits qu'elle avait cuits la veille. D'un bond, Valentin courut au garde-manger. Mais à sa grande surprise, tous les biscuits étaient entamés. Ses parents ne se livraient pas à ce genre de plaisanterie. Et les souris, quant à elles, n'ouvraient pas les garde-manger. Encore un mystère. Plus tard, dans son lit, Valentin repensait aux incidents de la journée, quand il crut voir une ombre forme étrange. Il eut peur quand celle-ci se mit à bouger. Mais il se ressaisit aussitôt. Ce n'était que ses vêtements posés sur le fauteuil. Tout à coup, un petit trottinement lui fit retenir son souffle. Il y avait quelqu'un dans sa chambre. Puis un loir grimpa sur son lit, bientôt suivi d'un autre. Et à cheval sur ses petits rongeurs, des lutins. Valentin remonta prudemment les draps sur son nez en attendant la suite. Elle ne tarda pas. Un gros bourdon passa au ras de son front et se posa à la tête du lit. C'était une petite fée ailée. Puis un bonhomme vert et bleu sauta sur le lit. Devant ses yeux, un elfe. Le garçonnet était à la fois émerveillé, mais un peu effarouché. La fée lissa ses vêtements de feuilles et de fleurs de sa petite main et prit la parole. « Bonsoir, Valentin. » « Bonsoir, Valentin, » reprit en cœur l'elfe et les lutins. « Tu nous as mis dans un sacré pétrin, » continua la petite fée. « Moi ?» s'exclama Valentin. « Mais comment ?»« Avec les feuilles du parc, » dit un lutin. « On n'est plus chez nous, » répliqua l'elfe. « Oui, mais les biscuits sont bons, » reprit le second lutin. « Tiens, tiens, » fit Valentin, « c'est donc vous qui avez goûté tous les gâteaux du garde-manger ?» Le premier lutin et l'elfe sautèrent sur leur compagnon en le bousculant sauvagement. « Tu ne peux pas tenir ta langue, gros bavard !» s'écria l'elfe. « Dis-lui aussi que nous avons peint le chat en bleu !» enchaîna le premier lutin. pour se taire aussitôt, conscient d'avoir eu la langue trop longue. Valentin allait répliquer, mais il fut interrompu par la fée, qui réclama le silence. « Ça ne vous suffit pas de jouer avec la pendule toutes les nuits. Il faut aussi que vous parliez tous en même temps. Quelle éducation !» Tout le monde se tut. La fée continua. « En faisant un aussi gros tas de feuilles avec ton papa, vous avez réveillé le Kuzieto. »« Quoi ?» fit Valentin, qui entendait ce mot pour la première fois. Un Kuzieto, c'est un esprit des branches et des feuillages qui dormait profondément. Il a un appétit d'ogre et menace maintenant d'avaler la maison tout entière, où nous vivons tous. « Mais c'est impossible !» dit Valentin. « Il faut l'en empêcher !» La fée sourit. « On ne peut pas, il est trop fort. La seule solution serait de lui préparer un gros repas composé exclusivement de plats magiques, cuisinés par un humain. Sinon, le charme serait impuissant. » Valentin comprit. « Et c'est à moi de le faire !» « Tout juste, Auguste, » dit l'elfe, « et tu n'as que cette nuit. »« Nous allons t'aider, » firent les lutins. La fée conclut. « Eh bien, puisque tout le monde est d'accord, allons-y vite, j'ai ici la liste des différents ingrédients. » Et elle déroula une grande feuille de marronnier où étaient inscrits des tas de petits mots illisibles. Les Loirs, peu portés sur la question gastronomique, étaient retournés se coucher. Valentin, depuis un bon moment, ne s'étonnait plus de rien, ni d'être appétissé par la fée grâce à une formule magique, ni d'être transporté avec les autres sur le dos d'une chouette effraie. Le vol dura très peu de temps, mais Valentin eut cependant l'occasion d'admirer sa maison vue du ciel. « Où allons-nous ? » demanda-t-il à ses nouveaux amis. « Ben, chez l'épicier, répliqua l'elfe. « Mais on ne va pas en direction du village, » fit Valentin, voyant qu'il survolait une forêt. Un lutin le rassura. « Tous les produits dont nous avons besoin sont magiques. Nous allons donc chez un épisorcier. C'est logique ?» Puis la chouette amorça sa descente en tenant un étrange langage. « Roger, Roger, demandons l'autorisation d'atterrir !» Une voix tonitruante sortit des arbres. « Ici Roger, autorisation accordée !» Et l'oiseau se posa sur une plateforme de planches qui se prolongeait jusqu'à une petite cabane soutenue par une grosse branche de chêne. Au fronton, on pouvait lire l'inscription suivante. Chez Roger, épicier en gros et en petit. La boutique était toute en bois. Ses étagères croulaient de produits aussi divers que mystérieux, et sur les étiquettes, on lisait des mots étranges. Dans un coin, un tas de balais en promotion. Dans un autre, des chaudrons magiques s'empilaient. Roger, l'épicier, était un petit gnome vêtu d'une grande blouse grise. Il avait un crayon coincé entre sa corne et une oreille, et sa barbiche blanche, quand il parlait, s'agitait dans tous les sens. Lorsque Valentin et ses amis entrèrent dans la boutique, il s'écria « C'est fermé, c'est fermé! D'ailleurs, je n'ai plus rien à vendre !» La fille s'étonna « Mais Roger, que se passe-t-il » L'épicier fut direct « Je ne vends rien au petit d'homme. » « Mais le Kuzieto va manger notre maison. Aidez-nous, monsieur, s'il vous plaît !» expliqua Valentin désespéré. L'épicier ouvrit des yeux ronds. « Un Kuzieto ? Mais ça change tout ! Il fallait le dire tout de suite. Qu'est-ce qu'il vous faut ?» Petite fée sortit sa feuille liste et énuméra. Un sac de poudre de cigogne, 1 kilo d'œufs de crapaud séché, 1 litre de sang de triton, 2 kilos de cristaux de lune blanche. Roger entassait les denrées sur le comptoir, lorsqu'il s'écria affolé. « Misère et corne de chèvre, je n'ai plus de carapace de lucarne, ni d'écailles de dragon. Il y a eu un baptême chez les elfes et j'ai été dévalisé. » Les lutins s'agitèrent. « Mais il nous faut ces produits, ce sont les plus importants. » Très rapidement, on décida d'aller chez la grande lucane, se procurer les fameuses carapaces. Elle logeait dans un grand frêne, non loin de l'épicerie. Valentin, très impressionné par cet insecte géant, prit garde de ne pas se trouver près de ses pinces menaçantes. Le petit garçon lui fit poliment sa demande. C'était la première fois qu'il parlait à une reine, et il plaça dans ses phrases toutes les formules de politesse qu'il connaissait. « Grand merci, Majesté, dit-il, de nous fournir tous ces carapaces désaffectées, et je vous prie d'agréer, Majesté, l'assurance de ma considération distinguée. » La grande lucarne rit beaucoup des phrases empêtrées de Valentin, et lui donna toute sa réserve personnelle de carapace. Nos amis s'envolèrent ensuite chez le dragon. Valentin n'était pas très rassuré. Il n'avait jamais affronté de dragon et avait peur d'être rôti par le souffle brûlant du monstre. Le garçonnet pria le ciel pour que le dragon soit dans un bon jour. Las, lorsqu'ils arrivèrent chez lui, ils le trouvèrent en proie à une colère noire. Le dragon allait et venait dans son jardin, pestant contre les factures qu'il jetait autour de lui. De temps en temps, il s'arrêtait et de fureur grillait un massif de fleurs. La fée toqua au portillon du jardin.
« Qu'est-ce que c'est ?» rugit le dragon.
La fée exposa le motif de leur visite.
« Des écailles, » murmura le dragon.
« Bien sûr, j'en ai. Un stock de ma dernière mue. Je vous vends tout le lot. »«
Mais nous n'avons pas d'argent, » dit Valentin. Le dragon fut intraitable.
« Pas d'argent, pas d'écailles. »
Et il expliqua à nos amis que ses besoins en charbon pour pouvoir cracher des flammes lui coûtaient de plus en plus cher. Valentin eut alors une idée lumineuse. Il proposa au monstre de se faire installer sur le dos des panneaux solaires. Ainsi, plus de factures exorbitantes de combustible et une meilleure qualité de flamme. Convaincu et heureux, le dragon lui offrit toutes ses écailles. Valentin et ses amis revinrent à la maison, aussi vite que pouvait voler la pauvre chouette, lourdement chargée. Tandis que les lutins et l'elfe commençaient à préparer les ustensiles de cuisine, la petite fée rendit à Valentin sa taille normale. Il se mit aussitôt au travail, mélangeant les ingrédients selon les recettes dictées par la fée. À la fin de la nuit, ils coururent porter le gâteau au coup de zéto. Il était temps, celui-ci avait commencé à grignoter la porte de la cave. Un lutin tira une clé de sa poche et ouvrit le kiosque d'Enaïde. Ils installèrent les desserts sur une table. Valentin fut émerveillé par le décor qu'il ne connaissait qu'à travers les carreaux de salle. Le coup de zéto entra, puis après s'être ébroué dans un tourbillon de feuilles, dévora les gâteaux. À la fin, rassasié, il poussa un énorme rot de satisfaction et disparut dans une gerbe de fleurs. La petite fée, les lutins et l'elfe prirent à leur tour congé de Valentin. Celui-ci se recoucha, un peu déçu de devoir quitter ses nouveaux amis. À son réveil, tout était redevenu normal. Valentin était heureux, grâce à son courage, la maison ne serait pas dévorée, et il savait que bientôt il reverrait ses amis enchantés.